Comme toujours, nous sommes dans un processus que nous appellerons pour simplifier révolutionnaire. En tout cas, c'est bien le cas pour la Tunisie. Il resterait ensuite à en discuter sur l'Égypte et la Libye. En tout cas, appelons-le comme ça par facilité de langage. Et des révolutions, on sait ce qu'il en advient. Certaines tournent bien, certaines tournent mal, et souvent les deux à la fois. De ce qu'il va advenir, nous n'en savons à peu près rien, sauf que nous pouvons savoir ce qu'il pourra se passer si un certain nombre d'éléments ne sont pas pris en compte très vite. Et j'y reviendrai à la fin. Je vais peut-être vous surprendre. Je ne crois pas que le facteur démocratique soit l'élément principal qui a conditionné ces phénomènes révolutionnaires. Il en est une des expressions. Autrement dit, la demande de démocratie et de dignité du monde arabe pris globalement était évidemment préexistante, puisque nous étions sur un modèle de régime autoritaire et particulièrement autoritaire, quelle que soit, je dirais, la forme qu'il a pu prendre, pseudo-système électoral en Tunisie et en Égypte, modèle autocratique délirant, déstructuré en Libye, ou, ne l'oublions pas, dans d'autres pays où, les braises sont en train de couver, monarchie autoritaire, etc., etc. C'est-à-dire que les modèles, en tout cas, ce sont les modèles que Hubert Védrine a mis sous la catégorie du modèle de stabilité autoritaire. Modèle de stabilité autoritaire qui est celui avec lequel, en gros, nous avons vécu dans le monde arabo-musulman, on va dire, pour simplifier, depuis les indépendances, ou en tout cas, pour ceux qui étaient déjà indépendants depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce régime, ce modèle de stabilité autoritaire, finalement, tout le monde y avait trouvé son compte, peu ou prou, sauf peut-être les populations, évidemment. Mais du point de vue de la géopolitique, évidemment, avoir de l'autre côté de la Méditerranée, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, des régimes durs qui, finalement, maintenaient l'ordre politique et social, assuraient l'approvisionnement en ressources, ensuite, à partir du 11 septembre, qui a été un facteur aggravant, si vous voulez, de dérives autoritaires avec le blanc-seing donné par les États-Unis à un modèle répressif tous azimuts, la lutte contre l'islamisme radical et avec, derrière tout cela, toutes les dérives possibles, évidemment, à compter de ce moment. Ce modèle qui nous a tous arrangés et qui a, dans certains pays, aussi arranger les populations. Je prends le cas de la Tunisie, où finalement, pendant les 10 premières années du règne, utilisons le terme, de Ben Ali, la population a accepté le principe de l'autoritarisme contre le pacte social de croissance et développement. D'une certaine manière, c'était une espèce de pacte informel qui faisait que, en échange de la croissance et du welfare state, de l'État-providence, eh bien, on acceptait ce tour autoritaire avec lequel on faisait. Mais évidemment, de dérive autoritaire en dérive autoritaire, nous sommes rentrés dans la dictature, et plus que la dictature dans le cas tunisien, la dictature prédatrice, captatrice, kleptocratique, comme le disent les sociologues américains, ça fait très bien, de kleptos volés. Ce modèle-là a volé en éclats, mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et c'est là où je dis que le facteur démocratique n'est pas le facteur conditionnant. Il est un des éléments structurants de la demande de dignité et démocratique, un des éléments structurants de l'explosion, si vous voulez. Mais l'explosion, elle a été conduite par quelque chose que personne n'a vu venir, en dehors de quelques observateurs rares. La crise économique et financière mondiale. C'est la crise économique et financière mondiale qui a fait exploser la baraque. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez les derniers, c'est-à-dire les travaux depuis 2 ans sur l'espace méditerranéen, qui ont été notamment conduits par la FEMIS, qui est le réseau des économistes de Méditerranée, et par d'autres, la Banque mondiale, etc. Nous avons une analyse de la crise économique au regard des économies arabes, pour faire simple, hein, mais, et globalement méditerranéennes, qui est de dire, ah mais finalement, cette région a été épargnée par la crise économique et financière. Ce qui est une aberration, parce que si effectivement ces pays n'étaient pas insérés dans l'économie financière capitalistique de type hedge fund, fonds de pension, bourse, etc., le deuxième choc, celui de l'économie réelle, ils l'ont pris en plein dans la figure. Et donc, ce modèle de pacte social qui a rangé la moyenne bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les classes juste en dessous, etc., avec lequel tout le monde avait fait, a volé en éclats l'espace de 2 ans. Et avec des chiffres impressionnants, qui ne sont finalement sortis qu'en décembre 2010. Hein, je vous renvoie à ce rapport, d'ailleurs, qui s'appelle « Devant la crise », qui a été le deuxième rapport donc de la FEMIS, qui dit, avec de façon absolument incroyable et paradoxale, finalement, les économies méditerranéennes se sont parfaitement, n'ont pas été touchées par la crise, et de suite, ils arrivent derrière avec des chiffres absolument calamiteux. Moins 30% d'exportation, moins 5% global de chute du tourisme, moins 7% des investissements étrangers, etc., etc. Je passe sur le... Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais... Et au final, vous avez quoi ? Vous avez une catastrophe. Évidemment, ceux qui regardaient l'espace méditerranéen, moi j'essaie en général de comparer l'Asie et justement la Méditerranée pour avoir un volant d'appréciation de ce point de vue-là, voyez très bien que de toute façon, le phénomène d'appauvrissement systématique des populations sud-méditerranéennes était en cours. Mais était en cours de façon accélérée. Et si vous rajoutez à cela le modèle kleptocratique donc tunisien, c'est-à-dire une économie au pillage par un gang, une famille, ça faisait déjà plus de 10 ans que les investissements étrangers ne rentraient plus dans le pays, tout simplement parce que la famille Traboulsi et Ben Ali appliquaient la règle des 50%. L'implicité, c'est 50% pour nous, le reste, voilà. 50%. Donc, ça veut dire que dans la réalité, tous ceux qui suivaient la Tunisie savaient qu'il n'y avait plus un rond qui rentrait dans ce pays. Et nous avons vécu sur l'espèce de mensonge global où tout le monde se congratulait autour de ça. À part ceux qui se disaient « le compte à rebours a commencé ». Mais comme toujours, dans le problématique, et c'est là où il faut être extrêmement modeste en matière de sciences politiques, que vous ne savez jamais quand la mèche arrive sur la dynamite et qu'elle va exploser. Et c'est là où l'admirable incertitude de l'analyse politique rentre en ligne de compte. Effondrement de l'économie réelle, pillage de l'économie nationale, avec des éléments, je dirais, des brûlots potentiels qui étaient, des classes d'âge, alors qui curieusement, alors là sont le fruit de la dictature, c'est-à-dire bien éduqués, bien formés, amenés à l'université, dans les universités étrangères, le cas échéant, etc., etc., sans travail. Et avec un élément aussi qu'il faut que nous ayons en ligne de compte tous, mais gravé, enfoncé, à cul de burin derrière le cortex, 50% de la population a moins de 15 ans. Et 35 moins de 18, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes étudiants qui arrivent à ce moment-là sans travail, mais avec des diplômes, en plus de bons diplômes, souvent, parce que c'est souvent plutôt très bien. Hein. C'est beaucoup moins bien sur les métiers intermédiaires, mais là, c'est vraiment très bien. Et vous trouvez ça en Égypte, vous trouvez ça en Tunisie, vous trouvez ça en Algérie, vous trouvez ça au Maroc, vous trouvez ça en Jordanie, et vous en trouvez ça partout. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez... réunit les éléments de l'explosion. Et il est très symbolique que ce soit dans un bled, pardonnez-moi l'expression, reculé de Tunisie, où le chômage était endémique, et que ce soit un diplômé de l'enseignement supérieur incapable de trouver du travail, qui se retrouve confronté à une violence policière qui l'amène à s'immoler. Et là, vous avez tout. Et le démarrage... qui part comme une traînée de poudre à partir de là. Et ce que personne n'entrevoit, parce que on est toujours, alors je parle côté français, côté, mais prenons les autres chancelleries, c'est à peu près pareil, on est sur des niveaux d'analyse en disant, oui, certes, c'est pas terrible, mais ça va tenir parce que le modèle autoritaire répressif Ben Ali, c'est-à-dire un policier pour 100 000 habitants, et, pour 10 000 habitants, pardon, est super efficace. Or, ce qu'on n'a pas compris ici et ailleurs, sauf peut-être les États-Unis qui avaient, je vous renvoie d'ailleurs à Wikileaks de ce point de vue-là, qui voit très bien l'analyse qui est faite par les États-Unis de l'avancée du système gangstérisé de Ben Ali, on voit que là, le système éclate et que le modèle de gang tel qu'il a été manifesté par le pouvoir tunisien, s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui n'ont jamais fait la guerre, jamais réellement connu de crise, jamais été capables, finalement, en dehors de Ben Ali lui-même, de gérer des situations extrêmement dures, sinon de la petite violence policière qui se traite à coups de matraque, et pas, évidemment, un soulèvement populaire de grande ampleur qui fait que là, le système saute à la figure et que l'effet panique désorganise en quelques jours, quelques heures quasiment, pour la fuite de Ben Ali, tout le système d'État. Et ça, si vous voulez, nous avons le démarrage. Et puis alors après, bien entendu, là, je suis resté un peu sur le cas tunisien, mais parce qu'il est symptomatique, si vous voulez, du démarrage de la crise, nous avons l'effet de capillarité, l'effet d'imitation, évidemment, qui fait qu'il va toucher tous les pays, ou presque, chacun à leur niveau, de façon plus ou moins brutale, puisque... en même temps que la crise tunisienne, des événements se produisaient en Jordanie, des événements se produisaient en Algérie, et puis nous avons le phénomène égyptien. Le phénomène égyptien qui est un cas un peu à part, puisqu'il, à mon sens, je vous donne le livre, une analyse personnelle de cette affaire, vous avez à la fois un soulèvement populaire issu du modèle tunisien et un coup d'État de palais qui est la prise en compte par une partie du pouvoir en place, à la fois de la situation de la Tunisie et de l'élimination de la famille Moubarak comme, telle qu'elle avait été pressentie ou préemptée il y a 5-6 ans, au moment où la famille Moubarak a annoncé que le fils serait le successeur potentiel. Et donc, si vous voulez, on a un double système à deux niveaux en Égypte. Hein, c'est une vraie révolte populaire et une révolution de palais qui élimine d'abord Gamal et puis alors dépassé par la poussée populaire, l'élimination du père qui n'était vraisemblablement pas prévue dans le scénario initial. Et là, qui nous trouve maintenant avec un scénario beaucoup plus ouvert et sans doute plus difficile à résoudre pour ceux qui ont, la révolution dans la révolution. Dernier point, oui, alors, bien entendu, le troisième événement, qui est lui aussi d'une nature un peu différente, qui est la révolution ou la guerre civile libyenne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est le fait que même les États rentiers, c'est-à-dire ceux disposant de ressources pétrolières solides, lourdes, et que l'on croyait à l'abri, justement, parce qu'un peu protégé de la crise grâce aux ressources pétrolières, se retrouvent finalement, eux aussi, emportés par le phénomène de révolte qui libère les énergies. En Algérie, le modèle est pour l'instant plutôt sous contrôle, mais jusqu'à quand, nul ne le sait, mais je donnerai une clé de lecture. La guerre civile algérienne est déjà passée, donc je ne suis pas sûr qu'il ait envie d'en remettre une... Donc, je suis très prudent sur ce que peut être l'avenir de l'Algérie. Mais la Libye est donc un exemple très intéressant d'un État, donc pareil, d'une famille, clan, tribu au pouvoir depuis 40 ans, modèle de prédation, déstructuration de l'État, parce qu'en plus, à cela, Gaddafi a ajouté un modèle de déstructuration permanente de l'État pour éviter l'émergence d'un pouvoir concurrent et qui fait que il s'est effondré aussi vite, justement, faute de structure, et que l'on retrouve les vieux démons libyens, enfin démons en tout cas, les vieux éléments qui réfèrent à la Libye du passé, c'est-à-dire la vieille opposition Tripoli-Benghazi, qui, en fait, parce que cet État, qui est le deuxième État créé par les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, Israël et la Libye étant ces deux-là, donc, et le regroupement de régions qui se fréquentaient à peine pendant 1000 ans ou 5000 ans d'histoire, en dehors du lien de la confrérie religieuse de Sénoussi, qui fut d'ailleurs l'élément à partir duquel on construisit l'État libyen avec le roi Idriss, qui était le chef de la confrérie. Mais tout le reste est qu'un montage, finalement, et dont on est en train de voir les limites, puisque d'une certaine manière, il y a une forme... On voit très bien que c'est sur la Tripolitaine que le clan Gaddafi s'est replié avec les moyens, et les hommes d'ailleurs, évidemment, à sa dévotion, et de toute façon pris par, évidemment, étant tous dans le même bateau. Et de l'autre côté, la Cyrénaïque, sur lequel il a toujours tapé, qui évidemment se libère du joug du dictateur. Alors là aussi, je ne ferai pas de prospective sur l'avenir de Gaddafi, même si je pense quand même que ces jours sont d'une manière ou d'une autre comptés. En revanche, c'est sur la capacité de résistance même du dictateur et la guerre elle-même qui peut durer que je mettrai l'accent. Et puis, nous avons les autres États qui sont en situation quand même de grande panique intellectuelle et politique, dont on parle peu. La Jordanie, qui a été un des premiers à connaître des événements, mais le roi Abdallah a fait baisser d'autorité tous les produits de base, le prix de tous les produits de base. Combien de temps la Jordanie peut-elle tenir en subventionnant tout, avec en plus un million d'Irakiens en plus dans le pays, hein, au passage, hein. Et le Maroc, dont personne ne parle, mais qui n'est pas moins à l'abri que les autres, parce que même les mêmes choses produisant les mêmes effets, vous avez un problème de crise économique et sociale là-bas, vous avez un problème de développement, vous avez un surenrichissement d'une classe bourgeoise qui s'est incroyablement enrichie en l'espace de 20-30 ans, et un pays qui n'a pas suivi, des bidonvilles, lac sur lac, Casaraba absolument monstrueux, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous avez là aussi des éléments. Je rappellerai qu'il y a 10 jours, il y a eu des violences dans le pays. Marrakech, Rabat, Al-Houssaïma, 3 morts. Violence à Tanger, dimanche dernier, également. Personne n'est totalement épargné par le phénomène. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière... Le phénomène éruptif que nous venons de connaître va se continuer. Sous quelle forme exacte, il est très difficile de le dire, mais je vois difficilement quiconque s'en tirer facilement. Le Yémen, c'est un modèle un peu différent, parce que là, il cumule à la fois tous les problèmes. Hein, mais,
L'Arabie Saoudite.
Alors, l'Arabie Saoudite, c'est intéressant. On sait qu'il y a une très grande inquiétude au sein du pouvoir saoudien. À la fois à cause de l'exemple de Bahreïn, justement, qui lui gère à la fois et la crise de la démocratie et le problème d'une minorité chiite, enfin, d'une majorité chiite sous contrôle d'une minorité sunnite depuis l'indépendance des années 70, en fait. Hein, c'est pas vieux, tout ça. Hein, et le fait que, justement, le modèle bahreïni inquiète beaucoup les Saoudiens, qui voient à travers la révolte de la minorité chiite, majorité chiite, le problème de leur minorité chiite très importante qui jouxte les mêmes zones, et, je dirais, et cet appel à la démocratie qui est valable pour tout le monde. Voilà. Alors là, que faire sur un pays dont la moyenne d'âge des dirigeants est de 75 ans passés, et cette famille régnante de plus de 5000 descendants directs ou cousins qui sont en compétition pour le partage du gâteau, et une redistribution qui certes a fonctionné pas mal, mais qui commence elle aussi à patiner sur les exigences d'expression populaire ouverte, etc. C'est-à-dire, quels sont les risques que je vois venir. Et ma grande inquiétude de ce point de vue-là, pour moi, c'est ce que j'appelle le deuxième round, le deuxième tour. À l'issue de ce mouvement révolutionnaire, qui n'est pas terminé, mais je dirais, dont les effets vont, politiques vont se faire de pays par pays, en commençant par la Tunisie et l'Égypte, hein, pour faire simple, vont être mises en place de nouvelles institutions, une nouvelle constitution, une ouverture du champ démocratique à l'intégralité des acteurs, et je pense que nous irons vers l'intégralité des acteurs, donc incluant les islamistes là-dedans, donc les partis islamistes, et que dès que nous aurons un gouvernement constitué, un peu d'ailleurs comme ce que nous voyons d'entrée en Tunisie, nous allons être confrontés à quoi ? À une demande du peuple ultra pressante qui va être une problématique économique. Donnez-nous des emplois, donnez-nous du pain. Et si les gouvernements démocratiques en place ne sont pas capables de répondre à la demande politique et sociale venue du peuple, et ma grande angoisse, c'est qu'ils n'y parviennent pas, tout simplement parce que les économies vont être ruinées. Hein, problème tunisien, l'année touristique est foutue. Les gens ne se sont que partiellement remis au travail. Or, ce sont là aussi des économies de rente basées sur un modèle justement de reconstitution de la rente année après année. Donc là, c'est dans le cas particulier de l'Égypte et de la Tunisie, c'est le tourisme. Donc, plus, je dirais, le problème de retrouver une insertion dans le système économique mondial, etc., etc. S'il n'y a pas une réponse directe, puissante et forte à l'attente de la population, nous aurons droit à un deuxième tour. Mais lui ne sera pas démocratique pour dessous. Ou alors il sera démocratique à l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire que vous aurez les extrémismes qui vont monter à marche forcée vers le pouvoir. Et quand je dis les, vous voyez, je ne vous dis pas les islamistes, non. Ça peut être retour de militaires providentiels, peut-être les islamistes radicaux enfin, etc. Hein, revanche de l'histoire. Mais de ce point de vue-là, on risque un retour ultra brutal vers la violence politique et une situation, alors là pour le coup, inextricable, nous Européens, avec en face des pays qui se montent, alors je parle sur le modèle iranien, sur le modèle algérien, ou plutôt le modèle irakien de la grande époque de Saddam, etc., etc. Ou autre chose d'ailleurs, hein, un retour, une explosion et un retour à aux séparations tribales et à l'éclatement global des... je ne crois pas beaucoup, mais... En Libye, c'est une référence qui est importante. Donc, pour moi, le vrai danger, il est là. Il n'est pas... Ce n'est pas, curieusement, politiquement, ce n'est pas maintenant. Je pense qu'on va avoir en Tunisie des élections qui vont être, à mon avis, assez fascinantes de ce point de vue-là. Les gens qui vont vraiment se battre, et ce sera un vrai modèle démocratique. Je pense que avec plus de façon un peu plus vicieuse, les Égyptiens feront un truc à leur manière. Ils ouvriront le champ aux islamistes, aux frères musulmans, qui pour le coup n'ont rien vu venir. C'est un élément intéressant, si vous voulez, aussi de l'équation actuelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est le facteur économique qui est l'élément central, parce que si ça avait été politique, les islamistes auraient été dans la course, ils ne l'ont été nulle part. Et les frères ont vu la chose passer comme ça et repasser en Égypte, se demandant ce qui leur arrivait. Et même le fait de les associer au pouvoir les a effrayés. C'est intéressant. Ben oui, parce qu'il faut aussi dire que chez les frères musulmans, ils sont aussi vieux que de l'autre côté. Vous avez au pouvoir des vieux barbons de 75 ans. Mais je dirais que le problème, oui, c'est plutôt sur le 80 et quelques. 80, c'est le 80 et quelques. Mais qui se sont fondamentalement embourgeoisés. Et qui n'ont aucune envie d'une aventure, sortir dans la rue, sabre à la main, faire le djihad. Alors, il y a une jeunesse qui, chez les frères qui pousse un peu. Mais donc, globalement, c'est la première partie, je dirais, là aussi, même en Égypte, de cette révolution devrait bien se passer. Mais c'est la deuxième. S'il n'y a pas de réponse directe, rapide, puissante aux aspirations populaires, le deuxième tour balayera tout. Et on se retrouvera dans ces processus révolutionnaires. On va passer de modèle de violence à modèle de violence. C'est autant je souscris, j'applaudis, je soutiens cet éveil, cet enthousiasme démocratique, autant je dis, si nous n'anticipons pas, si nous ne projetons pas sur le deuxième tour, deuxième round, les vrais dangers seront aux portes. Pour l'Europe. L'Europe, nous avons ainsi un modèle de coopération méditerranéen qui est moribond, ou mort, pour exemple, qui est l'Union pour la Méditerranée. On a cru qu'en modifiant le modèle de coopération, qui est en passant du partenariat euro-méditerranéen à un système multilatéral tel que l'Union pour la Méditerranée l'a créé, on allait finalement transformer l'espace de coopération. On n'a fait que le dégrader. On l'a dégradé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a reproduit le modèle de stabilité autoritaire à un niveau collectif, finalement. On a pris tous les présidents, les Moubarak, les Ben Ali, et tout le monde s'est mis autour d'une table. Et finalement, qu'est-ce qui ne pouvait sortir de cela ? Ben, rien que de la stabilité, justement. C'est-à-dire rien. Et on a très bien vu progressivement qu'on n'arrivait plus rien à sortir, puisque de toute façon, toutes les discussions tournaient autour du problème israélo-palestinien, ce qui est une bonne façon de paralyser n'importe quelle discussion dans ce type de cénacle, et que les projets économiques qui étaient censés être justement le moteur de la nouvelle Union pour la Méditerranée étaient paralysés par la crise économique. Donc on ne s'est retrouvé à rien. Vous aurez pu noter, pour ceux qui s'intéressent au sujet, que le secrétaire général qui avait été péniblement nommé l'année dernière a démissionné il y a un mois. Et il aura fait 6 mois de présence et rien entre-temps. Donc cette Union pour la Méditerranée est morte et il va falloir trouver quelque chose pour la réveiller ou réinventer complètement un processus d'urgence de coopération. Je peux difficilement dire la forme qu'il doit prendre. Est-ce qu'il faut conserver, je dirais, l'apparence de cette espèce d'ONU de la Méditerranée qui est l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui ? Pourquoi pas, après tout. Mais en tout cas, il faut immédiatement mettre en place une agence de développement qui soit orientée directement vers l'urgence de ces pays-là. Alors, moi, j'ai repris un mot dans un de mes papiers récents qui est très éculé, mais pour le coup qui a du sens, c'est il faut refaire un plan Marshall. Il faut faire un plan Marshall pour le monde arabe, pour les pays arabes, surtout concernant les pays non rentiers, évidemment, c'est-à-dire l'Égypte, la Tunisie, et les autres en dehors de la Libye. Et même, de toute façon, il faudra aider aussi la Libye et l'Algérie si rentrent à des processus de destruction. En tout cas, la Libye, c'est une évidence. Donc, un véritable plan Marshall. Et alors, pour le coup, la coopération avec les États-Unis prend tout son sens. C'est-à-dire que les États-Unis ont vu mieux que nous la crise monter. Reconnaître qu'ils ont su réagir de façon beaucoup plus courageuse, puisque le président Obama s'est engagé 2 fois directement en Tunisie et en Égypte. Et en Égypte, alors là, vraiment de façon majeure, pour obtenir le départ de la famille Moubarak. Après des tergiversations, ils se sont engagés également sur la Libye, mais on a fini nous aussi par s'y mettre. Mais on a quand même très lourdement et largement raté le coche de la... d'une prise de parole qui était attendue par les opinions publiques arabes depuis le début des événements, et que, alors là, pour le coup, on a complètement manqué. Et donc, je dirais qu'il faut aller se racheter de cet assourdissant silence, d'une certaine manière, en étant les porteurs d'une initiative qui soit, je dirais, ce sauvetage accéléré du monde arabo-musulman, dans la mesure où, effectivement, si nous laissons la situation perdurer, de toute façon, elle nous retombera dans la figure de façon extrêmement, extrêmement brutale. Ce qu'on vient de voir sur les flux migratoires brutaux de Tunisie n'est qu'un début de ce qui nous attend. Et alors, ce qui nous attend, moi, je n'ai pas voulu vous assommer avec les chiffres, et je termine là-dessus, mais quand même, il faudra créer 22 millions d'emplois en Méditerranée, si on veut à peu près sauver la situation. 22 millions d'emplois.
D'où viennent ces chiffres ?
Ça, ce sont les chiffres de la FEMIS, je pense. Et en gros, ça veut dire 300 milliards d'investissements jusqu'en 2030, vous voyez. Avec, je vous dis, des enjeux très simples. La moitié de la population qui a moins de 15 ans et qu'il va falloir prendre en charge. Parce qu'un des éléments de la crise, il tient là-dedans. Les États ont pu gérer longtemps des populations peu nombreuses qui s'étaient finalement insérées dans le moule de l'autoritarisme en vivotant plus ou moins, voire en espérant, comme ça a été le cas pendant certaines années, progresser socialement. Et pour certains, pour la Tunisie, ça a très bien marché. Mais c'est fini. Maintenant, le modèle de stabilité autoritaire est mort. Le modèle économique avec lequel on a pu construire une croissance durable en Méditerranée, c'est-à-dire le modèle du capitalisme libéral sans barrières, et je crains lui aussi très, très, très sérieusement entamé, malgré ses résistances. Et cela veut dire qu'il va falloir totalement remettre à plat une nouvelle politique économique globale qui puisse prendre en compte ce type d'aspiration. Si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas les porteurs de cela, je crains que l'avenir soit extrêmement sombre. Et comme j'ai ouvert par la crise économique, je terminerai là-dessus. Et si on oublie les aspects dictatoriaux et les modèles criminels des gouvernements qui sont tombés ou qui vont tomber, les mêmes choses produisant les mêmes effets, la violence politique et sociale, on peut la retrouver au nord de la Méditerranée, comme elle existe déjà au sud. Et je vous remercie.